Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de Polar Vin et Compagnie. Avec nous aujourd'hui en studio, Sylvie, bonjour.
Bonjour et bonsoir.
Maïté.
Bonjour.
Et William. Et
bonjour.
Et l'éternel Nico à la technique.
Salut tout le monde.
Dans cette émission, nous allons vous présenter le cinquième et dernier roman en lice pour le prix Robin Cook 2024, Les Malvenus d'Audrey Brière. Mais d'abord, des infos sur les prochaines activités de l'association Cap Polar Sud-Aveyron. À Frontignan, ville côtière voisine de Sète entre étangs de Thau et Méditerranée, a lieu ce week-end le Festival international du roman noir, le FIRN. Si Frontignan est plus connu pour son muscat, sachez que ce sera tout de même la 27e édition de cet incontournable festival où plusieurs d'entre vous, ici présents, ont prévu de se rendre.
Oui, le FIRN, c'est un peu le grand frère du festival Polar Vin et Compagnie. D'ailleurs, Paul et Rachid, les deux promoteurs du festival Miyavois, s'en sont beaucoup inspirés. Et une des particularités de ce festival, alors outre qu'il date, puisque c'est sa 27e édition, c'est qu'il reçoit depuis plusieurs années des auteurs et des autrices étrangers. Et cette année, il y aura 20 auteurs et 16 autrices qui sont invités, qui représenteront 11 nationalités. Et parmi elles, il y en a que nous connaissons bien. Il y aura Laurence Bieberfeld, il y aura Benoît Séverac, il y a, qui c'est que j'ai dit encore, Lilian Batelot, qui est un des candidats au prix Robin Cook, voilà. Donc le FIRN, cette année, la thématique, c'est le corps. D'ailleurs, leur affiche, c'est un jeu de mots, c'est encore en deux mots. C'est plein d'animations autour du roman noir, des ateliers, des tables rondes, des rencontres littéraires, des balades littéraires même, des lectures électriques, des spectacles, de la musique. Enfin, plein de moments pour rencontrer et échanger avec nos auteurs préférés. Donc, il y a plusieurs de l'association à s'y rendre samedi et peut-être aussi dimanche. Donc, nous proposons à celles et ceux qui le souhaiteraient de se joindre à nous pour covoiturer en fonction des places disponibles, si vous êtes intéressés. Ben envoyez-nous un message à capsudaveyron12@orange.fr. capsudaveyron12@orange.fr.
Johnny Laforge, le leader présumé des troubles qui secouent la ville, est toujours en cavale après le braquage d'un fourgon hier en fin de journée.
Donc on a un mort et un blessé.
C'était parti de la grève générale à la FGR, la fonderie.
Je veux savoir où est Johnny.
Mais c'est il y a 15 ans, Paul, qu'il fallait l'aider.
Il est temps que les gens comprennent qui est Johnny.
Qui est-ce ?
Un assassin.
Quelle était la nature de vos liens avec Johnny ?
Il a décidé qu'on n'allait pas se laisser faire.
Vous en parlez au présent, comme s'il était toujours en vie. C'est quoi ça ?
Ça, c'est l'autre actu de ce jour. En effet, l'association Cap Polar Sud-Aveyron vous invite le mardi 4 juin à 20h30 pour la projection du film Un homme en fuite. Ce sera la première programmation d'une longue série de polars présentée par votre association avec le soutien des cinémas de Mio.
Oui, cela fait partie des actions et animations que souhaite mener l'association. Et Muriel, la gérante des cinémas de Mio, a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'idée de diffuser sur grand écran des polars, des thrillers qui sortent des circuits de diffusion habituels. Et d'ailleurs, nous la remercions. Et donc, des films policiers ou noirs seront proposés régulièrement, peut-être tous les 2 ou 3 mois. Enfin, on verra en fonction de l'actualité cinématographique.
Notre ami Didier, le cinéphile de Cap Sud-Aveyron, qui n'a pas pu être là pour cette émission, nous a transmis cette fiche de présentation du film Un homme en fuite.
Oui, alors Rochebrune est au bord du chaos. Johnny, leader du mouvement de protestation de la ville, a disparu après avoir braqué un fourgon. Lorsque Paul Ligre apprend la nouvelle, il revient dans la ville qu'il a vue grandir pour retrouver son ami d'enfance avant la police. Seulement, l'enquête d'Anna Werner la mène inéluctablement vers le secret qui unit Paul et Johnny. Baptiste Debrau, dans ce film, rend particulièrement dense l'ambiance à la fois dépressive et surchauffée d'une petite ville touchée par la désertification et l'horizon du chômage. Rue vide, tag vindicatif, façade décatie de magasins fermés depuis longtemps, pancartes et brasero pour réunir les derniers militants. Très intelligemment construit à coups de flashbacks qui abolissent le temps, un homme en fuite plonge au cœur de l'amitié comme dans une légende, avec un héros hors la loi et un alter ego qui revient façon western. La prouesse de la mise en scène est de rendre très vivant ce Johnny presque mort, ce pirate d'une France qui se noie. Il faut dire qu'il est incarné par Pierre Lottin, parfait dès qu'il s'agit d'offrir toute l'humanité du monde à un personnage frustre et blessé. Un Pierre Lottin bien loin de son rôle de frère aîné de la famille Tuche. Face à lui, Bastien Bouillon, qui nous avait touché dans son rôle d'inspecteur fragile hanté par le meurtre de Clara dans La Nuit du 12, ce thriller émouvant de Dominique Moll. Bastien Bouillon, qui vibre ici de remords, frère d'armes qui n'aurait pas dû déserter. Un beau rôle aussi pour un beau rôle de flic pour Léa Drucker, et peut-être même un de ses plus beaux rôles au cinéma.
Un homme en fuite, ce sera donc mardi 4 juin à 20h30 au cinéma de Millau. Et c'est la dernière ligne droite pour le prix Robin Cook. Vous pouvez encore voter pour votre polar préféré jusqu'au 31 mai dans votre médiathèque, à Millau, Saint-Affrique, Rodez, dans votre bibliothèque à Cornus, à Saint-Bozély, à Rivière-sur-Tarn, au Viala du Tarn, ainsi qu'au club de lecture de Nantes. D'ailleurs, nous vous invitons à ne pas louper la prochaine émission de Polar Vin et Compagnie, au cours de laquelle des membres du jury du prix Robin Cook partageront leur coup de cœur et peut-être leur coup de gueule sur les 5 romans en compétition, en toute subjectivité bien sûr. Et c'est Maïté qui nous présente aujourd'hui Les Malvenus d'Audrey Brière, paru aux éditions du Seuil.
Audrey Brière est une autrice, une écrivaine française de 37 ans qui vit à Paris. Elle a une maîtrise de Sciences Po passée aux USA et puis une licence aussi de Sciences Po passée à Versailles. C'est son troisième livre, mais c'est son premier roman polar. Il se passe en Bourgogne, dans un petit village, dont la vie tourne autour d'un orphelinat religieux, dans lequel la majorité des habitants d'ailleurs a grandi. Tout est sombre et froid, comme cet hiver de 1917 qui traverse toute l'histoire du roman. Mais la découverte d'un cadavre rompt le calme apparent de la communauté. N'importe quel habitant peut être le meurtrier. L'enquêteur les connaît tous car il est aussi un enfant trouvé, recueilli par l'orphelinat. La découverte progressive des secrets entremêlés des uns et des autres crée le suspense du livre jusqu'au dénouement final, inattendu, qui donne une réponse aux interrogations du lecteur. Pour reprendre l'histoire, c'est encore la Grande Guerre, fin 1917. Thomas Sorel est retrouvé mort dans la cave de sa belle-mère. Alcoolique et violent, haï de tous les habitants, c'était le bras armé du redouté maire. Il a été égorgé et sa langue coupée a été enfoncée dans son arrière-train, ce qui est peu banal. Comme Thomas et de nombreux habitants, l'inspecteur Mathias Lavaux a été élevé au couvent, comme on l'a dit. Il a fait sa formation de policier à Paris et à Lyon, avant de rentrer au bercail. Son atout principal, c'est qu'il a une mémoire étonnante qui l'aide à résoudre ses enquêtes. Dans l'atmosphère pesante d'un hiver rigoureux, Mathias et son étrange assistante, Esther, vont démêler les secrets, les passions et les vices des habitants, dont les vies sont entrelacées depuis des décennies. L'enquête est emplie de rebondissements. On sort peu du huis clos du village avec le couvent des Ursulines, comme aimant qui semble retenir ses anciens pensionnaires. La complexité et le mystère entourent l'inspecteur Mathias Lavaux et son assistante Esther Louve, mais aussi plusieurs personnages secondaires, dont la sœur Marie, la mère du couvent, Guy l'étrange, le maire, et Antoine, le nouveau comte de Maison Rouge.
L'inspecteur logeait sans se plaindre dans cette habitation douteuse. À dire vrai, il s'y trouvait bien. Il s'alimentait à l'oxygène du village, guettant les cloches de l'église, le chant des religieuses, les premiers cris des enfants. L'âge ne l'avait pas délesté de cette habitude. La vie du couvent continuait à rythmer ses jours et ses nuits, même s'il en avait franchi la porte depuis bien longtemps. 36 années avaient passé, et le garçonnet sauvé des bois avait cédé la place à un gaillard frisant la quarantaine. Des épaisses boucles brunes qui voilaient son regard se teintaient tout juste de quelques mèches argentées. De fines pattes d'oie s'inscrivaient inexorablement au coin de ses yeux gris. Un menton carré et un nez busqué achevaient de donner à ce visage un air d'étrangeté, flanqué de son lot de charme et de suavité.
En fait, par moments, on se croirait dans un récit médiéval. Le village s'appelle Haut-de-Cœur, le château de Noble-Pierre, le comte de Maison-Rouge. Les gens sont frustes, la présence de loups et d'une dame fantôme alourdi cette espèce d'ambiance médiévale que j'ai trouvée dans le livre. Le présent et le passé s'entremêlent dans cette enquête que beaucoup d'habitants jugent d'ailleurs superflue. Le village n'a-t-il pas gagné à être débarrassé de ce triste sire ? Mais pour l'inspecteur, la loi est la loi, il doit trouver le coupable pour qu'il soit jugé. Il va donc replonger dans son passé et fouiller celui de son adjointe qui n'est pas venue par hasard se perdre dans ce village isolé. Il va s'attaquer aussi au passé de la prieure qu'il a élevée au couvent, du maire corrompu et de plusieurs de ses amis d'enfance. La tranquillité du village n'est donc qu'apparente. Les personnages sont blessés par les épreuves de la vie, ils traînent tous des casseroles et dissimulent des secrets peu catholiques.
L'inspecteur Mathias Ricana détourna le regard. « Elle m'a élevée, Esther. Elle est ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Je l'ai aimée comme telle, nom de Dieu, et puis tout ce temps, elle a fait ce qu'elle devait faire. » Esther but une gorgée de café, il darda sur elle ses billes métalliques implacables, et elle frémit en sentant sa colère la percuter de plein fouet. « 40 ans de mensonge, éructa-t-il, j'ai été dupe pendant 40 ans. Elle est la raison pour laquelle je suis devenu policier, et c'est elle qui a voulu que je devienne un homme honorable, tandis qu'elle, elle n'était qu'une... qu'une... Mais regardez le monde autour de vous, inspecteur, la coupa-t-elle. Le monde ne nous a jamais épargnés. Les mères abandonnent leurs enfants, les hivers s'éternisent, la neige efface les traces de pas qui auraient pu nous permettre de retrouver notre chemin. Regardez le monde. » Esther avança la main et la posa sur celle de l'inspecteur. Il tressaillit. « Et dans ce monde, il y a des gens comme vous, Mathias. Des hommes qui se soucient de ce qui est juste. Il y a des femmes comme la prieure qui se soucient de ce qui est juste. Illégal peut-être, mais juste. »
Mais en ce début du XXe siècle, les premières techniques scientifiques révolutionnent le monde des enquêtes policières. C'est ce qui va aider Mathias à ouvrir certaines portes qu'il pensait condamnées, lui permettant de résoudre l'énigme de ce meurtre. Les Malvenus, c'est à la fois un roman, un policier, un récit d'ambiance, marqué par un temps, un lieu, une atmosphère et des personnages singuliers. L'histoire est originale, tout comme ces personnages torturés qui finissent par nous émouvoir.
L'interrogatoire de l'inspecteur Derry.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Madame Audrey Brière, vous êtes entendue parce qu'il existe contre vous plusieurs raisons plausibles que vous ayez commis un roman, Les Malvenus, paru dans la collection Cadre Noir au Seuil, dont la peine pourrait être l'obtention du prix Robin Cook 2024. Une fois que vous aurez décliné votre identité, vous avez le droit de répondre aux questions qui vous sont posées, de faire des déclarations ou de garder le silence. Votre nom.
Bonjour, je suis Audrey Brière et je suis l'autrice des Malvenus.
Profession ?
Écrivaine.
Lieu de résidence ?
J'habite en région parisienne, au nord de Paris.
Pourquoi avoir commis ce roman, Les Malvenus, donc dans la collection Cadre Noir au Seuil, et sans témoin de surcroît ?
La genèse de ce roman, c'est une histoire qui se rapproche un peu de mon histoire familiale, puisqu'il se passe dans un petit village de Bourgogne qui a vu vivre pendant de nombreuses années mon arrière-grand-mère, et que quand elle est décédée, ça m'a inspiré une histoire. Et je suis, étant moi-même grande lectrice de romans policiers, je me suis naturellement tournée vers ce genre-là. L'histoire des Malvenus, c'est quoi ? C'est un matin, au cours de l'hiver 1917, un homme est retrouvé assassiné dans une cave. Et il apparaît assez vite que cet homme, il était détesté de plein d'habitants du village et que donc la liste des suspects est assez conséquente. Tout le monde est content qu'il soit mort et personne n'a trop envie de voir la lumière se faire sur cette histoire. Et malgré tout, un inspecteur de police qui habite le village va se saisir de l'affaire pour mener l'enquête. Donc on est vraiment sur un fond de guerre mondiale, mais plus vraiment dans le fond du paysage. Il n'est pas question de la guerre vraiment à proprement parler dans le livre. Ça permet juste un contexte en fait d'isolement qui était tout à fait propice à ce livre. Une autre particularité de cette histoire, c'est que dans ce village, il y a un orphelinat qui est tenu par des sœurs dans un couvent et que beaucoup d'habitants du village sont issus de cet orphelinat, dont la victime est l'inspecteur de police. Donc notre inspecteur de police, Mathias Laveau, il a été formé à Paris et à Lyon par les pères de la police scientifique, donc Alphonse Bertillon et Edmond Locard, qui est officier aussi, voilà, dans ces années-là. Et il va en fait mettre en œuvre tout ce qu'il a appris pour résoudre l'enquête, donc avec les méthodes de fichage, les fiches anthropométriques et toutes ces méthodes révolutionnaires pour l'époque qui permettaient de rendre la justice.
Donnez-moi 5 mots-clés qui résument les malvenus.
Orphelin, passé, solitude, isolement, fraternité. Alors, orphelin. Pourquoi orphelin ? Parce que bon nombre d'habitants du village sont issus de l'orphelinat qui est tenu par les sœurs dans le couvent des Ursulines. L'inspecteur de police est issu de cet orphelinat. Un autre personnage qui a une importance aussi dans le roman, qui s'appelle Jeanne, est également orpheline. Et en fait, on se rend compte comme ça au fil du récit qu'il y a pas mal d'habitants qui ont grandi dans cet orphelinat et qui, une fois qu'ils sont devenus adultes et qu'ils auraient pu aller voir le monde, voyager, aller un peu plus loin, on choisit de rester vraiment dans le village de Haute-Cœur parce que, en fait, cet orphelinat, c'est le seul foyer qu'ils ont jamais connu et qui ne souhaite pas vivre loin de ce foyer. Donc ça, c'est pour le mot orphelinat. Le mot passé, pourquoi passé ? Eh bien, parce qu'en fait, les raisons de l'assassinat de cet homme, Thomas Sorel, sont à rechercher vraiment dans l'histoire de l'orphelinat, dans l'histoire du village et dans vraiment les confins de ce passé commun à tous ces personnages. Le mot isolement. Le mot isolement, pourquoi ? Parce que j'ai écrit ce texte un peu comme un vase clos. Et l'isolement, je l'ai fait ressentir à travers des éléments de contexte. Donc la guerre, bien sûr, hein, qui est, même si elle est dans le lointain, elle crée un isolement géographique. Le climat aussi, il fait très froid, il y a beaucoup de neige, il neige tout le temps, la luminosité est assez faible, il fait jamais tout à fait jour, jamais tout à fait nuit. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une bulle un peu spatio-temporelle dans laquelle on sait où on est et on sait quand on est, mais c'est quand même assez diffus, c'est quand même assez isolé du reste du monde, quoi. Le mot solitude se rapporte plus en fait à deux personnages dont on n'a pas encore parlé, qui sont Antoine de Maisonrouge et Esther Louve. Antoine de Maisonrouge, qui est en fait un espèce de comte déchu, très ami avec l'inspecteur de police, qui en fait à la suite d'un drame personnel se retrouve un peu seul au monde, et vraiment seul au sens où il est entouré, mais il se sent extrêmement seul et c'est ainsi qu'il va vivre et mourir. Et la solitude aussi d'Esther, qui est en fait le binôme de l'inspecteur, un peu son bras droit, qui va mener l'enquête avec lui, qui elle en fait est étrangère au village, qui a évidemment un rapport avec l'histoire, mais rapport qu'on va découvrir en fait tout au long du récit. Et qui elle-même, en fait, est un personnage très, très seul, de par également son histoire que je ne peux pas vous révéler ici. Et fraternité, parce qu'il y a entre tous ces orphelins un lien qui est vraiment fort, qui est vraiment indestructible, notamment entre les trois personnages de Mathias, Jeanne et Antoine, qui sont vraiment comme frères et sœurs, et c'est une relation qui a son importance, en fait, qui va vraiment conditionner leur choix.
Qui est votre personnage préféré dans ce roman ?
C'est dur à dire. C'est comme si on me demandait de choisir entre mes enfants. Non, j'exagère, mais quand même. Si je dois vraiment en choisir un, je choisirais Esther.
Et quel est celui que vous élimineriez sans état d'âme ?
Vous voulez dire celui que j'enlèverais du roman ou que je ferais mourir ?
Que vous élimineriez.
Alors, ceux que j'éliminerais dans le sens où j'aurais pas de peine de les voir mourir, c'est le personnage du maire, Guy Lestrange.
Votre conseil vin et musique pour accompagner la lecture des malvenus ?
Alors, bon, évidemment, j'ai choisi un Bourgogne, parce que c'était un peu évident, et j'ai choisi un Pinot Noir de Bourgogne. Et mon conseil musical, bah écoutez, tout simplement, c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée pendant que j'écrivais, c'est une valse de Chopin.
Audrey Brière, à cette étape de la procédure et en tant que suspect libre, nous vous demandons de ne pas quitter le territoire et de rester joignable jusqu'au 15 juin 2024, jour de la remise du prix Robin Cook. Merci Audrey Brière de vous être prêtée à ce jeu pour défendre votre roman Les Malvenus, qui est paru dans la collection Cadre Noir au Seuil et qui est sélectionné dans le cadre du prix Robin Cook 2024.
Eh bien, merci à vous, c'était très sympa.
C'était la valse numéro 7 en do dièse mineur de Frédéric Chopin.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Oui, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Donc, nous sommes à la cave de Jean-François Vincent. Alors, excuse-moi ce mauvais jeu de mots, mais Vincent, en verlan, ça fait 120. Est-ce que tu as, parce que quand je vois toutes les bouteilles, j'imagine que tu as beaucoup plus de références qu'une centaine.
Oui, on a un peu plus de, je pense, entre 650 et 700 références voilà, au niveau des vins.
Donc aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui nous intéresse. C'est un Bourgogne Pinot Noir, bien évidemment, puisque Audrey Brière, l'écrivaine qui a écrit Les Malvenus, ben, nous a conseillé ce vin pour apprécier encore mieux son livre Les Malvenus. Tu peux nous en parler, ouais.
Alors, du livre, je ne l'ai pas encore lu, donc il faudra que je le fasse. Donc, ça, non. Mais par contre, voilà, on va proposait donc un pinot noir de Bourgogne. Donc c'est la cave Nuit-Tombeau-Noix qui propose une cuvée en Bourgogne Haute Côte de Nuit. Voilà, ça c'est on est sur millésime 2022. Et c'est une cuvée qui est intéressante parce que moi j'aime beaucoup dans les vins rechercher le fruit et pas trop l'élevage. Et là on aura vraiment la caractéristique du pinot noir, voilà, ce côté un peu griotte. Donc voilà, c'est une cuvée qui me plaît, qui reste pour un Bourgogne sur un tarif raisonnable. Donc j'ai sélectionné cette cuvée pour aujourd'hui.
Et qu'on boit dans quelle occasion ?
Ça peut se boire sur tout type de viande. Ça peut très bien passer, à mon avis, sur un poulet rôti. Mais après, on peut, c'est quand même assez épicé. Il peut y avoir un côté poivré. Et je pense qu'il a tout à fait sa place devant une belle pièce de bœuf. Côte de bœuf, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci, il sera à la hauteur.
Oui, j'en ai l'eau à la bouche. Jean-François, toi, du coup, cette passion pour le vin, elle t'est venue comment et quand ?
Elle m'est venue il y a, on va dire, presque 20 ans, un petit peu moins. C'est en fait une reconversion professionnelle. Et voilà, j'ai fait une formation à Suze-la-Rousse, à l'Université du Vin. Et puis après, voilà, j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient des projets sur Millau, qui ont dû se terminer. Et donc après, j'ai pu rebondir et voilà, travailler et m'installer à mon compte.
Bon, on sait que tu es un ami de Polar Vin et Compagnie, puisqu'on t'a vu sur tous les festivals. Donc on te remercie. On te remercie pour ton accueil. Et puis, on va aller partager avec Mathias Laveau, l'inspecteur de police, et son assistante Esther Louve, ce Bourgogne Nuit-Tombeau-Noix, évidemment. On va se régaler. Merci Jean-François.
Merci à vous.
Avant de se quitter, un petit rappel des rendez-vous. Ce week-end, le Festival international du roman noir à Frontignan. Si vous souhaitez covoiturer, faites-le savoir en envoyant un mail à capsudaveyron12@orange.fr. Mardi prochain, c'est la rediffusion de cette émission à 16h. Le 4 juin à 20h30, projection du film Un homme en fuite au cinéma de Millau. Le 7 juin, l'émission Polar Vin et Compagnie vous proposera un débat consacré aux œuvres sélectionnées pour le prix Robin Cook. Et vous pouvez toujours écouter cette émission en podcast sur radiolarzac.org ainsi que les émissions précédentes. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.